former, sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Académie du MEDEF, l'organisme de formation intégré au MEDEF. Aujourd'hui, nous allons parler d'autoconsommation énergétique collective. Je laisse la parole à Myriam Nicolas.
Merci Gauthier. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce webinaire sur l'autoconsommation. Donc avec d'une part la tendance à court, moyen, long terme à la hausse des prix de l'énergie, la baisse simultanée des coûts de production du solaire photovoltaïque et d'autre part la nécessité de massifier les énergies renouvelables pour réussir la transition énergétique, l'autoconsommation est un modèle qui est amené à se développer rapidement et le cadre technique, réglementaire, économique est de plus en plus favorable et ce qui nous permet de constater un essor de l'autoconsommation ces dernières années et un potentiel de croissance qui est d'autant plus significatif. Le MEDEF souhaite donc, avec ce cycle d'informations par webinaire, apporter une contribution, un éclairage pour les chefs d'entreprise pour que chacun puisse saisir les tenants, les aboutissants, les intérêts, les opportunités, mais aussi les risques du modèle de l'autoconsommation. Ce troisième webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle dédié à la thématique. Un premier webinaire que vous pouvez retrouver en ligne nous a permis d'établir sur l'autoconsommation énergétique individuelle des entreprises un premier cadrage. Grâce aux contributions de l'Union française de l'électricité, de l'ADEME et Enerplan. Nous avons ensuite bénéficié des retours d'expérience de deux entreprises sur l'autoconsommation énergétique individuelle à nouveau et la session du jour est centrée sur l'autoconsommation énergétique collective. La distinction sera éclairée par nos intervenants juste après. C'est un webinaire qui s'inscrit bien entendu dans l'ensemble des travaux du MEDEF sur la transition énergétique. Nous avons une commission qui est dédiée au sujet de transition, qui est coprésidée par Luc Benoît Catin, qui est représentant de France Chimie, Julia Maris, représentant de France Gaz. Et les travaux de cette commission est soutenu par les travaux d'un comité dédié à l'énergie et à la compétitivité, qui est coprésidé par Aluminium France et l'UFE. Les intervenants de ce jour sont donc Sia Partners, Enerplan et Janté. Sia Partners, vous avez travaillé l'an dernier sur l'autoconsommation collective et vous nous ferez un retour. Enerplan, vous êtes le syndicat du photovoltaïque, du solaire, et vous nous ferez aussi, spécialiste de l'autoconsommation, un focus sur l'autoconsommation collective. Et nous aurons aussi Hélène Gelas, qui est avocate au sein du pôle énergie du cabinet Janté, qui nous parle plus spécifiquement des risques, mais aussi des liens entre autoconsommation et PPA. J'en dis pas plus, je donne dès à présent le micro à Virginie Sommet pour Sia Partners.
Bonjour à tous, du coup je me présente rapidement, donc Virginie Sommet. Aujourd'hui on va parler d'autoconsommation collective. Principalement, l'autoconsommation collective va avoir donc une association de un ou des producteurs avec un ou des consommateurs. Donc sur ce type de projet, on va vraiment travailler à une échelle plutôt locale, territoriale, puisque aujourd'hui la législation, et on reviendra dessus un petit peu après, notamment il me semble avec Enerplan et avec Janté. Aujourd'hui, du point de vue de la réglementation, un projet d'autoconsommation collective doit forcément être donc à une échelle locale, c'est-à-dire que tous les consommateurs et producteurs doivent être dans une échelle de 2 km avec potentiellement une dérogation jusqu'à 20 km, mais donc on est vraiment sur une échelle locale et on est aussi sur la puissance maximale de production qui ne doit pas excéder 3 MW. Donc on est sur quand même des projets qui se veulent être à une taille humaine. Donc un des rôles clés au sein d'une opération d'autoconsommation collective, donc on va en parler un petit peu, du coup c'est la personne morale organisatrice qui est le chef d'orchestre en fait de toute l'opération, qui du coup va à la fois gérer la relation entre les producteurs, les consommateurs, notamment sur tout ce qui est création de la convention, discussion avec le gestionnaire du réseau de distribution, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. C'est lui qui va vraiment gérer avec donc les producteurs, les consommateurs, l'ensemble de cette opération. Et notamment la partie répartition de l'électricité entre du coup, les différents consommateurs. Aujourd'hui, donc, dans une opération d'autoconsommation collective, derrière l'énergie qui va être produite, elle va être du coup répartie entre du coup les différents consommateurs. Donc il y a plusieurs clés de répartition aujourd'hui qui existent, donc des clés de répartition statiques, dynamiques. On peut en parler un petit peu plus longuement, mais en tout cas il y a des clés de répartition qui existent. Et ça va être à la charge du PMO, avec du coup les autres acteurs, de répartir en fait cette énergie entre les différents consommateurs. Un point sur lequel Alban reviendra, c'est que lorsqu'on lance un projet d'autoconsommation collective, l'objectif, ce n'est pas que la production couvre 100% des besoins. On en parlera notamment sur la partie modèle économique, mais aujourd'hui, la production au sein de l'opération couvrira du coup une partie des besoins des consommateurs. Quand on veut monter une opération d'autoconsommation collective, alors là, le schéma parle plutôt de la partie exploitation, mais je vais faire un tout petit aparté sur la partie montage. Du coup, quand on veut monter une opération d'autoconsommation collective, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont participer au montage de cette opération. Donc, il va y avoir notamment les bureaux d'études, des investisseurs du coup dans le projet, des conseillers juridiques qui vont aider à mettre en place la structure de l'opération d'autoconsommation collective, et aussi l'installateur sur la partie production. Ensuite, on va passer plutôt du coup sur la phase d'exploitation. Donc, une fois que l'opération a été validée, et là, on a un certain nombre d'acteurs du coup qui vont rentrer en jeu. Donc, les producteurs. Donc, alors là, c'est aujourd'hui la majorité des opérations d'autoconsommation collective, c'est plutôt du photovoltaïque hein, aujourd'hui qui est installé. Même s'il existe d'autres, il y a des opérations d'ACC autour du gaz également. Mais aujourd'hui, c'est plutôt du PV qui est installé. Donc, il y a les producteurs, les consommateurs. Donc, on peut avoir différentes typologies de clients, des particuliers, des entreprises, notamment. C'est pour ça qu'on est là aussi, ici aujourd'hui. Et donc, ces producteurs donc, vont produire de l'électricité qui va être consommée par les consommateurs de l'opération. Il n'y a pas forcément toute l'énergie produite qui pourra être consommée, à l'instant T. Donc, celle qui est produite en surplus pourra être revendue du coup, sur les différents marchés. Et après, du point de vue du consommateur, on va distinguer donc l'électricité qui est autoconsommée, donc qui est l'électricité qui est issue, on va dire, de la production de l'opération, de l'électricité qui est alloconsommée. Donc, en effet, un client va avoir un contrat de fourniture d'électricité avec un fournisseur. Et du coup, ce client-là va donc consommer de l'énergie qui va être à la fois issue, là, dans le cas présent, par exemple, des panneaux solaires, mais également issue, du coup, de la partie fournisseur d'électricité. Et ensuite, c'est donc la personne morale organisatrice, avec notamment l'aide du gestionnaire de réseau qui va récupérer du coup toute la partie mesure d'énergie, qui va y avoir du coup la répartition qui va être faite entre les différents acteurs, notamment sur la partie qui va être produite par les panneaux solaires et la partie qui va être issue du fournisseur d'électricité. Je passe la main du coup à mon collègue Alban, qui va un petit peu parler du coup de la partie plutôt business plan et qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on monte une opération d'ACC.
Effectivement, merci Virginie. En tant qu'entreprise, on est amené à se poser la question de quel intérêt je peux avoir à m'inscrire dans un projet d'autoconsommation collective. Déjà, comme tous les projets d'autoconsommation, l'objectif, c'est bien d'accéder à une énergie qui soit renouvelable et peu chère, avec un prix qui soit globalement fixe dans le temps. Apporter de la visibilité et diminuer les coûts, c'est un enjeu clé pour beaucoup d'entreprises. À la différence de l'autoconsommation individuelle, que vous avez déjà vu, en fait, le projet d'autoconsommation collective, il permet d'optimiser la consommation d'énergie produite par le photovoltaïque ou par les autres ressources, principalement par le photovoltaïque. Parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est de consommer un maximum de l'énergie qui est produite par les panneaux. Une fois que vous les avez installés, il faut amortir le coût et il faut en tirer un maximum de valeur. Si vous ne la consommez pas, elle est revendue à un acteur obligé, et à un prix qui va être moins intéressant que le prix auquel vous devriez acheter votre électricité auprès d'un fournisseur. Donc plus vous autoconsommez, plus vous optimisez en fait votre schéma d'autoconsommation. Et l'avantage quand on est en autoconsommation collective, c'est qu'on peut jouer sur plusieurs producteurs et aussi plusieurs typologies de consommateurs. Puisque comme on a des entreprises, des particuliers, on va avoir du tertiaire, on va avoir des collectivités, on va avoir des équipements énergétiques et des profils de consommation énergétique qui vont être différents. Et c'est cette diversité qui va permettre en fait d'optimiser la courbe de consommation du projet d'autoconsommation. Donc, une fois que ça s'est dit, comment on fait pour optimiser plus globalement la performance économique de son projet? Bien, il y a plusieurs choses à avoir en tête. Déjà, en amont, dans la mise en place du projet, il faut bien choisir sa localisation et ses sites de production. L'exposition est évidemment importante, l'inclination des panneaux, il y a un vrai projet technique pour optimiser la production. Il y a aussi la quantité d'énergie produite. Comme le disait Virginie, le tout, ce n'est pas de produire un maximum. Ce qu'il faut, c'est produire au plus pertinent par rapport à ce qu'on sera capable de consommer. Il ne faut pas viser 100% de la consommation à couvrir par le PV, ça ne servira à rien. Si on est déjà à 60% d'autoconsommation, c'est plutôt très bien. Et donc, avoir des capacités de production qui soient cohérentes avec cet objectif, c'est important. Il ne faut pas surproduire. Sinon, on vend de l'électricité à un prix qui n'est pas très intéressant. La durée de vie des installations, faire attention aussi où est-ce qu'on est implanté, leur protection, l'évolution du climat éventuellement à prendre en compte. Et aussi les éventuelles capacités de stockage qu'il peut y avoir sur le site. Alors de plus en plus avec les voitures électriques et donc les parcs de recharge de voitures électriques, notamment sur les sites des entreprises, ça peut représenter des capacités de stockage qui seront amenées de plus en plus à être sollicitées pour en fait stocker de l'énergie que vous produirez avec du PV et la récupérer potentiellement soit dans vos véhicules, soit de la remettre un moment sur le réseau, ce qu'on appelle le véhicule to grid, qui sera amené à se développer, ou même des capacités de stockage en convertissant l'électricité en eau chaude, par exemple, avec une pompe à chaleur, qui vous permet de consommer cette énergie plus tard sous une autre forme, mais bien d'avoir optimisé en fait votre production de PV. Ensuite, on a parlé des profils de consommation, avoir différents profils de consommation pour que certains consomment plutôt très tôt le matin, vers la pause de midi, d'autres plus dans l'après-midi, d'autres plutôt le soir. Ça permet d'optimiser la consommation énergétique. Pour tout ça, on va utiliser des calculs, les taux d'autoconsommation, d'autoproduction, pour pouvoir assurer la performance du business model. Et c'est là où rentrent en compte les clés de répartition, puisque, en fait, avec la typologie de consommateur, on va regarder qui doit consommer quel volume et à quel moment. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de diriger, entre guillemets, l'énergie produite vers les bons sites, puisque quand on a un projet d'autoconsommation, il faut être organisé, c'est pas l'anarchie. Et donc, si vous êtes plusieurs à avoir un besoin en même temps, il faut pouvoir dire qui est prioritaire et dans quel volume. À prendre en compte, évidemment, c'est l'évolution des prix, ça a été évoqué, on est plutôt sur une tendance à la hausse. Très difficile toujours d'anticiper les prix de l'énergie, mais ce qu'on voit quand même, c'est que depuis une vingtaine d'années, ça augmente de plus en plus, et il y a encore beaucoup d'investissements qui vont être à faire dans la transition énergétique, qui vont nécessiter aussi des taxes sur l'énergie, et c'est aussi ce qui pousse en partie l'augmentation des prix. Dans le cadre de ce projet, donc beaucoup de calculs d'une part, mais il y a aussi des aides d'autre part qui incitent au développement des projets. Pour les plus gros projets, c'est des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, au-delà de 500 kW, avec une mise en concurrence des projets qui souhaitent s'organiser en autoconsommation collective. Et en contrepartie, il y a un complément de rémunération qui est proposé et qui est indexé sur 10 ans. Ça permet encore une fois d'apporter de la visibilité et de la stabilité aux porteurs du projet. Pour les plus petits projets, on va être sur donc ce qu'on appelle le guichet S21, qui permet en fait d'accéder à un prix de rachat de l'électricité qui soit, on va dire, correct. Ce n'est pas un prix très compétitif, c'est moins que ce que vous achetez, le prix auquel vous achetez votre électricité, mais c'est un prix déjà qui est globalement stable, qui évolue régulièrement, mais dans des ordres de grandeur qui sont raisonnables, on va dire. Donc ça apporte aussi de la visibilité. Et c'est complété par une prime à l'investissement sur l'autoconsommation. En fonction de combien vous installez, vous avez un complément qui est apporté. Il y a aussi une prime d'investissement à intégration paysagère qui concerne plutôt les panneaux photovoltaïques sous forme de tuiles qui s'intègrent très bien dans le paysage, qui sont plus chers à l'achat. Donc voilà, c'est pas là-dessus que je vous invite à compter le plus, mais les autres types d'aides doivent permettre dans l'ensemble, avec les différents mécanismes qu'on a cités, d'optimiser un projet d'autoconsommation. Rapide passage sur un exemple, il y a déjà des projets évidemment qui sont en cours, il y en a de plus en plus, et on le verra juste après. Mais là, si on doit prendre un exemple, c'est celui de Sérénie-Calas. Donc c'est un projet dans les Bouches-du-Rhône où il y a deux producteurs, une école, un groupe scolaire, donc avec plusieurs bâtiments, et le clubhouse d'un site avec piscine. Et il y a 90 consommateurs qui sont autour de ce projet, des individus, des particuliers, mais aussi d'autres entreprises, des PME notamment, et des collectivités. Donc il y a un budget assez conséquent qui a été mis au départ, mais en fait, le fait d'avoir autant de contributeurs au projet, ça permet aussi de faciliter l'obtention de financement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ce projet-là, en fait, l'entité Sérénie-Calas s'est organisée en tant que société de projet, qui permet aussi d'avoir une structure qui peut permettre d'obtenir des financements, obtenir un prêt, etc. Et donc de faciliter aussi l'organisation financière du projet. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on cherche un optimum économique, mais c'est avant tout, en tout cas, c'est aussi beaucoup des projets d'intégration territoriale, des projets qui visent à regrouper différents acteurs du territoire autour d'une valeur assez noble qui est l'énergie dont tout le monde a besoin, et de rapprocher producteurs et consommateurs. Donc c'est souvent aussi des vrais projets territoriaux avec les élus et qui doivent être aussi pensés comme tels. Ce n'est pas seulement un mécanisme de fourniture d'énergie, c'est aussi un projet de territoire, de collectivité dans lequel les entreprises sont invitées à s'intégrer. Un dernier mot, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, différents travaux qui ont été produits côté SIA Partners sur les derniers mois, notamment une étude sur le rôle que doit jouer l'autoconsommation collective pour la transition énergétique de la France, qui a été publiée l'année dernière et dont on a fait une table ronde. Vous retrouvez ça donc sur le site de SIA Partners. Plus tôt cette année, on a organisé une grande conférence avec beaucoup d'acteurs autour des Power Purchase Agreements, qu'on évoquera un peu plus tard dans ce webinaire, et qui sont un autre format finalement de fourniture d'énergie renouvelable. Et très récemment, on vient de sortir une série de webinaires, de podcasts même, sur la transition énergétique des entreprises, avec là une série de 7 épisodes sur les Power Purchase Agreements, et qui sera suivi par d'autres thématiques. On aura très probablement l'occasion de revenir sur l'autoconsommation et l'autoconsommation collective. Donc voilà pour ces éléments autour du projet, et donc je vais pouvoir laisser la parole à Enerplan.
Peut-être juste avant que David Gréot prenne la parole, merci beaucoup Virginie et Alban. On a une question dans le chat. Est-ce qu'il est possible de souscrire au guichet S21 si l'installation dépasse les 500 kW crête, mais que l'on bride l'injection à une puissance inférieure à 500 kW?
Donc non, hein, pour ma part, c'est sur la capacité du projet. Alors, et je suis pas sûr qu'il y ait de la négociation possible là.
Non, je confirme, il n'y a pas de négociation possible.
Question sur les projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours. Quel acteur aujourd'hui est le plus souvent à l'initiative du projet? Est-ce que c'est davantage les collectivités? Est-ce que c'est davantage les entreprises?
Historiquement, c'est plutôt les collectivités, mais la tendance évolue un peu. Et effectivement, Enerplan va pouvoir nous en dire un peu plus avec David.
Merci beaucoup et merci de me laisser encore quelques éléments à ajouter après cette présentation qui est déjà très exhaustive. Alors peut-être vous dire d'abord d'où je parle. Hein, Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Et donc on est un syndicat professionnel où tous nos adhérents sont des acteurs du monde du solaire, thermique et photovoltaïque. Et cette question de l'autoconsommation ici collective, mais de l'autoconsommation en général, c'est un sujet qu'on a commencé à aborder il y a maintenant 10 ans, avant même que ce soit dans le Code de l'énergie, avec un événement annuel qui est l'Université de l'autoconsommation. Et justement, je voulais vous amener un petit ressenti sur ces 10 ans de travail sur l'autoconsommation, avec la dernière édition de l'Université de l'autoconsommation qui s'est tenue à la fin du mois de septembre, donc il y a quelques jours, où on se trouve avec des journées qui, historiquement, avait été plutôt tourné vers l'autoconsommation individuelle au moment où on essuyait les plâtres, entre guillemets. Hein, on avait les premiers projets qui se montaient, il fallait que les professionnels échangent entre eux pour voir quels étaient les bons modèles, comment ça se développait. Cette autoconsommation individuelle, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait courant. Il y a eu plus de 900 000 installations raccordées l'année passée. Et donc, finalement, ce n'est plus un sujet pour les professionnels du solaire. Cette autoconsommation individuelle, et finalement l'événement déjà l'année dernière avait pris cette coloration, mais encore plus cette année. Finalement, on s'est rendu compte que dans toutes les tables rondes de la première journée, dans tous les ateliers de la seconde journée, la vraie demande et les vraies questions étaient autour de l'autoconsommation collective, parce que c'est là où on est encore en train de construire le modèle. Et de fait, toutes les tables rondes ont parlé d'autoconsommation collective, ont eu des acteurs de l'autoconsommation collective autour de la table. Et finalement, je trouve que c'est assez signifiant, même si je vous avais les chiffres sous les yeux. Aujourd'hui, on est encore, d'une certaine manière, dans l'épaisseur du trait. On a 559 opérations qui sont actives. Il y en a, chez Enedis, à peu près 900 qui sont en cours d'étude. Donc en plus de ces 559, et il y a un deuxième chiffre, et pour répondre à la question qui a été posée à l'instant, aujourd'hui 60% de ces opérations sont initiées ou portées par des collectivités locales. Donc on est sur quelque chose qui est encore très porté effectivement par les intercommunalités ou les mairies, hein, globalement, sur leur patrimoine le plus souvent, en tout cas aujourd'hui majoritairement. Mais tout ça est en train de changer et d'évoluer dans le bon sens. Alors, on espère que les collectivités locales continueront à être dynamiques, hein, parce qu'on a besoin d'elles. Et pour reprendre un mot de ma vice-présidente en charge du solaire sur bâtiment et autoconsommation, on a près de 36 000 communes En France, on devrait avoir 36 000 opérations d'autoconsommation collective. Mais après, évidemment, les entreprises ont leur rôle à jouer et elles ont leur rôle à jouer à plusieurs titres. À la fois, en tant que consommatrice, on retrouve dans ces opérations initiées par les collectivités locales des entreprises de leur territoire sur le périmètre de 2 km ou de 10 ou de 20 selon la typologie de la collectivité. En fait, c'est lié à la densité de population, territoire où s'implante l'opération d'autoconsommation collective. Donc on sait selon où on s'implante si on pourra obtenir une dérogation pour aller jusqu'à 5 km de rayon ou 10 km de rayon. Et ça, c'est assez facile aujourd'hui à savoir. Mais du coup, il y a déjà des entreprises dans ces opérations menées par les collectivités locales. Mais je pense que c'est amené effectivement à se développer de plus en plus. D'ailleurs, lors de la dernière université de l'autoconsommation, finalement, un des porteurs de projets qu'on a souhaité faire intervenir et qui était intéressant à double titre, c'était Aéroports de Paris. Aéroports de Paris est intéressant à double titre, d'une part parce qu'ils ont un fort enjeu de décarbonation, lié en particulier à leur activité, et des bâtiments qui sont très énergivores en plus des activités qui se déroulent dans les aéroports. Donc ils veulent commencer aussi à baisser le poids carbone de ces bâtiments. Et par ailleurs, ils ont du foncier. Et donc ils ont du foncier, notamment de bâtiments, mais aussi de parking, mais aussi du foncier délaissé, entre guillemets, autour des pistes de leurs aéroports. Et donc finalement, peuvent rentrer dans des grands projets. Parce que ils ont la place de pouvoir faire des grands projets solaires. Et par ailleurs, à l'intérieur même de leurs bâtiments, ils ont beaucoup d'occupants. C'est pas Aéroports de Paris qui est l'occupant unique de l'ensemble des espaces, comme un centre commercial d'une certaine manière. Vous allez avoir autant de compteurs électriques à l'intérieur que d'occupants. Et donc finalement, si l'ensemble des consommateurs à l'intérieur de ces bâtiments veut pouvoir participer à une opération qui serait menée par Aéroports de Paris en tant que propriétaire du bâtiment et des terrains autour, ça passera forcément par l'autoconsommation collective. Et donc c'est un retour d'expérience qui est en cours, c'est du work in progress du côté d'Aéroports de Paris, mais qui est intéressant. Le deuxième point qui me fait dire que ça va continuer à se développer, c'est évidemment la dynamique. Vous avez la courbe sous les yeux. Et la courbe, elle ne commence qu'au quatrième trimestre 2022, donc il y a moins de 2 ans. Et on est passé de 77 opérations au quatrième trimestre 2022 à 559 au troisième trimestre 2024. On a une courbe de progression qui est assez forte, mais également des évolutions de modèles qui sont en cours, donc soit sur des actifs solaires neufs, et j'y reviendrai après, sur notamment les obligations de solarisation qui peuvent exister à diverses échelles, mais aussi sur l'évolution du modèle d'actifs déjà raccordés au réseau et qui pourraient aujourd'hui se tourner vers de l'autoconsommation collective. En tout cas, il y a une vraie volonté de la part des développeurs qui possèdent et qui exploitent ces centrales de se tourner vers l'autoconsommation collective. Voilà, donc je ne vais pas forcément revenir sur le modèle, mais une illustration qui avait été diffusée lors de l'Université de l'autoconsommation qui vous montre que finalement, le modèle en général, initial, c'est d'abord j'autoconsomme individuellement. Donc là, vous avez une petite maison avec une foncière, avec le mot foncière indiqué en dessous. Ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité, ça peut être n'importe quel propriétaire finalement. Mais en général, le premier modèle, c'est l'autoconsommation individuelle, donc sans passer par le réseau public de distribution. Et ensuite, dans un périmètre que vous voyez ici en rose, je ne sais pas comment ça apparaît sur vos écrans, vous avez une opération d'autoconsommation collective, donc plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs qui peuvent se réunir au sein d'une personne morale organisatrice, je ne reviendrai pas dessus, ça a été déjà expliqué, pour consommer ensemble l'électricité qu'ils auront produite ensemble. Et ensuite, alors là, le modèle est un peu élaboré parce qu'il a été imaginé avec un PPA, donc en bon français, un contrat de gré à gré qui viendrait après cette autoconsommation collective. Donc on a déjà le surplus d'autoconsommation individuelle qui est partagé dans l'autoconsommation collective. Ce surplus d'autoconsommation collective, donc non consommé dans les deux opérations précédentes, peut être en partie vendu à un tiers au travers d'un contrat de gré à gré, et éventuellement, s'il y a encore du surplus, à un agrégateur qui, comme ça a été dit à l'instant par SIA Partners, peut être un acheteur public ou via un complément de rémunération dans le cadre des dispositifs de soutien public guichet ouvert S21 ou appel d'offres, ou un contrat strictement privé avec un agrégateur sur le marché. Et donc, voilà, je voulais revenir aussi sur les évolutions qu'on attend et sur le pourquoi je pense qu'il y a une dynamique qui va continuer à s'amorcer. Je vais commencer par la fin. Cette dynamique, elle va continuer à aller de croissante pour plusieurs raisons. Si on avait tenu ce webinaire il y a 10 mois, je vous aurais dit que c'était pour des raisons essentiellement économiques. On était sur des prix de l'électricité qui étaient très élevés. Et c'est ce que j'avais dit, je crois, quand on avait fait sur le même format le webinaire sur l'autoconsommation individuelle. On était sur des prix de l'électricité qui étaient très élevés et le fait d'autoconsommer permettait de stabiliser une partie de son approvisionnement électrique. C'est toujours vrai, mais les prix ont baissé sur les marchés, ce qui a rendu peut-être pour certains le besoin de développer ces opérations moins urgent, y compris pour des collectivités, hein, pareil. Mais on a trois phases, à mon sens, et on entre dans cette troisième vague aujourd'hui. De l'autoconsommation collective où on va vraiment massifier cette autoconsommation collective. C'est d'abord, on a eu ceux qui ont essuyé les plâtres, hein, dont je parlais tout à l'heure, des pionniers qui ont agi par conviction. Il faut savoir que la première opération d'autoconsommation collective qui s'est faite en France, c'était d'une certaine manière un accident. C'était une opération sur un immeuble d'un bailleur social qui avait solarisé son toit, qui avait compté sur de la vente totale pour... Avec un certain niveau de rémunération de ce qu'il mettrait sur le réseau pour rentabiliser son actif. Le temps que le projet se fasse, le projet n'était plus forcément viable sur la vente totale. Et du coup, ce bailleur social s'est dit « Bon, bah, j'ai installé mes panneaux, qu'est-ce que je vais faire de cette électricité que je vais générer ? C'est pas si intéressant que ça d'aller vendre tout. Voilà, je vais réfléchir autrement. Il y a ce modèle qui se développe d'autoconsommation collective. Je vais y aller, je vais tester. » Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on avait vraiment des pionniers. C'était le tout premier. Après, il y a eu effectivement d'autres pionniers qui ont mis en place des opérations par conviction, par volonté justement de décarbonation. On a une deuxième génération que j'évoquais à l'instant aussi, qui l'a fait pour des raisons économiques essentiellement, en se disant que ce qui avait été produit dans le cadre de l'opération d'autoconsommation, d'abord individuelle puis collective, avait un prix stable sur 20 ans. C'est l'amortissement de l'installation solaire. Que certes, ça n'allait pas combler 100% des besoins électriques, comme ça a été dit. Ça n'a pas vocation à se déconnecter du réseau, entre guillemets. Il y aura toujours des consommations qui viendront du réseau. Mais ils l'ont fait pour des raisons essentiellement économiques. Et on a vu, pour ce qui est des entreprises, par exemple, passer les dossiers d'autoconsommation du responsable environnement, développement durable, RSE, ce que vous voulez au sein de l'entreprise, vers la direction des affaires financières. Et là, on a un troisième mouvement qui est que c'est en train de se déplacer des directions financières et vers les directions juridiques des entreprises, parce qu'on entre dans une vague d'obligations. La loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable de mars 2023 et la loi climat-résilience avant, en 2021, ont introduit des obligations pour un certain nombre de bâtiments. Je les détaillerai et vous les aurez dans les slides qui, je pense, vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Je ne reviendrai pas forcément dans le détail sur les différentes obligations, mais on a finalement cette obligation qui se met en place où, dès lors que j'ai un bâtiment, selon sa typologie, de plus de 500 ou 1000 m², dès lors que j'ai un parking de plus de 500 ou 10 000 m², je vais me retrouver obligé de solariser ces espaces ou de les végétaliser, mais beaucoup partiront sur de la solarisation. Et à partir du moment où on va être obligé de solariser, on se posera la question, comme le bailleur social bordelais tout à l'heure, dans l'exemple de la première opération, puisque j'ai cet actif qui est sur mon terrain, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais produire de l'électricité, qu'est-ce que je vais en faire? C'est quoi le plus intéressant pour moi? Est-ce que ça va être de vendre tout? Est-ce que ça va être de consommer uniquement pour moi? Est-ce que ça va être de partager avec mes voisins? Et on a des exemples comme ça, notamment de zones industrielles, de zones artisanales, ou de zones commerciales qui vont mutualiser ces obligations et en tout cas cette production pour aller alimenter l'ensemble de la zone et l'ensemble des entreprises qui agissent sur la zone dans des projets collectifs. Ils sont souvent déjà locataires d'une même foncière. Voilà, et donc finalement, il y a cette facilité aussi à se parler entre voisins et à échanger cette électricité entre voisins. Et donc, c'est cette troisième vague où on part finalement d'une obligation, d'une contrainte, pour le transformer en opportunité d'aller autoconsommer collectivement les électrons qu'on aura produits. Et sur les évolutions, pour repasser sur le premier item, hein, les évolutions qu'on voit à l'œuvre, on a un texte qui est d'ores et déjà passé en Conseil supérieur de l'énergie, dont on attend la publication incessamment sous peu, qui justement, tout à l'heure, était rappelé, le plafond de puissance maximal, hein, de 3 MW, aujourd'hui prévaut pour l'autoconsommation collective, ce 3 MW devrait devenir à court terme 10 MW. Et pourquoi c'est intéressant? Pas forcément parce que vous aurez plus de place sur vos toits ou sur vos parkings, mais parce que vous allez pouvoir mutualiser encore plus largement avec d'autres acteurs et par ailleurs mutualiser avec des acteurs de l'éolien, par exemple, puisque une éolienne, un mât d'éolienne, généralement, c'est déjà plus de 3 MW. Donc, ils avaient du mal à faire rentrer une éolienne dans une opération d'autoconsommation collective, sachant qu'unitairement, elle était déjà au-delà de la puissance admise, mais aussi de la petite hydraulique au fil de l'eau. Et finalement, diversifier à l'échelle d'une opération d'autoconsommation collective les différents vecteurs de production du solaire, de l'éolien, éventuellement un peu d'hydraulique si ça s'y prête et s'il y en a dans le périmètre. Voilà, pour aller passer un deuxième cap dans ces opérations d'autoconsommation collective. Très rapidement, du coup, vous retrouverez dans les slides voilà, les obligations sur les bâtiments détaillées avec la ligne temporelle hein, selon laquelle ces obligations doivent se réaliser. Et dans la slide suivante, vous aurez la même chose sur les parkings de stationnement extérieur qui seront finalement des détails, des opportunités qui permettront à cette tendance à l'autoconsommation d'évoluer. Un dernier point, et je réponds peut-être à une question qui n'a pas encore été posée dans le chat, mais on m'avait demandé d'y répondre par anticipation, simplement pour dire que moi, je représente aujourd'hui donc la filière solaire ou les filières solaires. On a un enjeu important pour les filières solaires de sécurisation de parcours et de qualité de réalisation. Et je voulais simplement, à cette occasion, rappeler que les dispositifs de soutien public, que ce soit les dispositifs d'appel d'offres ou le guichet ouvert jusqu'à 500 kW crête, ou demain le guichet ouvert pour du petit sol jusqu'à 1 MW crête, qui est aussi une opportunité demain d'autoconsommation collective supplémentaire, oblige à passer par des professionnels qualifiés ou agréés. Et c'est très important, on a été des fervents militants de cette inscription dans les textes de soutien parce que ça permet justement de sécuriser le parcours du client, quel qu'il soit. On sait très bien que le métier d'une entreprise ou la préoccupation principale d'un ménage, ce n'est pas de produire de l'électricité. Chacun a son métier et le métier que développe chacune des entreprises n'est pas forcément d'aller rentabiliser son toit ou son parking avec du solaire, c'est le métier des professionnels du solaire et donc on a tous les signes de qualité nécessaires pour répondre à ces enjeux qui donnent accès finalement au soutien public, sinon on n'y a pas accès.
Est-ce qu'il est possible d'être exonéré de l'obligation sur parc de stationnement extérieur en cas de photovoltaïque installée?
J'imagine installée en toiture. La réponse est non. Les obligations sont disjointes, il y a une obligation sur bâtiment, une obligation sur toiture. C'est juste dans l'autre sens et de manière temporaire que pour l'instant, l'obligation de solarisation de la toiture peut être renvoyée vers des installations sur les parkings, mais jusqu'en 2028 de mémoire. Je crois qu'on l'avait sur la slide, vous le retrouverez sur la slide, mais c'est une exonération qui est une exonération temporaire.
Bonjour à tous. Je ne sais pas après ces deux présentations ce qui va me rester à dire, mais on va trouver quand même. puisqu'il y a différents prismes qui se rejoignent évidemment. Il y a le prisme économique, le prisme aussi de la filière, et puis malheureusement, il y a aussi un prisme juridique. Donc ça a été dit, on est dans un contexte général effectivement de crise énergétique, de crise géopolitique, ce qui a amené le développement de nouvelles typologies de modes de production et de vente d'électricité, avec évidemment au cœur de cette évolution-là, puisque comme David l'a dit au départ, l'autoconsommation collective, c'était plutôt à l'initiative des collectivités qui voyaient là un moyen d'aménager son territoire, de s'investir, de s'impliquer dans le territoire, de répondre aussi peut-être à des demandes de citoyens. Et les entreprises jusque-là n'étaient pas forcément tout à fait au cœur de cette réflexion-là parce que il n'y avait pas encore un mécanisme un peu incitatif économique qui est arrivé avec ce contexte malheureux de crise énergétique et géopolitique qui a mis un peu le doigt sur le besoin pour les entreprises de stabiliser la fourniture d'électricité avec en parallèle, comme l'a signalé aussi David, de plus en plus d'obligations de solarisation qui sont mis sur les entreprises, ce qui amène des opportunités, ce qui amène une réflexion plus générale. Et puis aussi, et c'est peut-être la quatrième vague pour reboucler la boucle, la troisième vague étant donc ces obligations de solarisation, d'aller vers des modes de production d'énergie renouvelable, qui va rejoindre la première vague, à mon sens, on le voit déjà, avec les problématiques ou en tout cas les opportunités de RSE, de ESG, qui amènent les entreprises à se dire OK, j'ai des obligations, mais je vais en faire des opportunités. Et je vais y aller aussi par conviction, parce que c'est aussi ce que mes salariés demandent. C'est aussi quelque chose qui est valorisé maintenant dans les marques, dans la vente de produits, dans tout ça. Je peux dire, moi, je fais ma part en amenant de l'électricité verte. Mes salariés, ils sont contents de voir que leur entreprise fait quelque chose pour l'avenir des enfants, pour voilà. Et donc, tout cela se rejoint avec, du coup, aussi, cette logique économique qui a été très centrale et qui amène ce fort développement. On le voyait sur le graphe de David en 2022, 2023, 2024. C'est le signal lancé par la crise énergétique, pour le coup. Post-Covid et encore amplifié ensuite. Et donc, ces nouveaux modes de gestion, finalement, de la production et de la fourniture d'électricité, eh bien, au cœur de ces deux problématiques, on va parler des corporate PPA, donc des contrats de gré à gré de fourniture, enfin d'achat d'électricité, et l'autoconsommation collective, ce qui sont deux modes de fourniture et de gestion de la production d'électricité assez proches, mais qui vont répondre à des besoins différents ou à des opportunités un peu différentes. Donc les corporate PPA, c'est des contrats qui sont conclus de gré à gré, qui ne sont pas réglementés, alors modulo. Comme je ne vous apprendrai rien que l'État aime bien réglementer quand même les choses pour y mettre son nez au cas où il y a un truc qui se passe mal, on va quand même commencer par réglementer un petit peu. Donc il y a quand même un peu plus de réglementation depuis la loi d'accélération qui est la loi industrie verte sur les corporate PPA. Mais globalement, c'est un contrat commercial. J'achète pas des rames de papier, j'achète des électrons ou du gaz, puisqu'on a l'équivalent aujourd'hui en biogas purchase agreement. Donc de la même manière, j'achète une molécule de gaz et puis je la consomme. C'est un achat, un contrat de fourniture classique sur évidemment un objet, un produit qui n'est pas tout à fait classique. Donc c'est des contrats qui sont assez lourds. Qui sont de plus en plus standardisés, mais qui restent des contrats un peu lourds à gérer et à négocier. En complément, on a l'autoconsommation collective, qui répond en revanche, elle, pour le coup, à un cadre très contraint dans le code de l'énergie, avec une définition que je vous ai reproduite ici. Donc, il a été déjà mentionné le fait qu'il y a nécessité pour avoir une autoconsommation collective d'avoir au moins un producteur et au moins un consommateur différent. À partir du moment où on n'a pas le même producteur-consommateur, on est dans un système d'autoconsommation collective. La définition initiale, c'est au sein d'un même bâtiment. Il a fallu un peu batailler pour dire oui, enfin quand même, ça va quand même beaucoup limiter le nombre d'opérations possibles si on est toujours dans le même bâtiment. Donc il y a eu une nouvelle définition qui a été ajoutée, qui est l'autoconsommation collective étendue. Et il nous faut une personne morale organisatrice, comme ça a été dit tout à l'heure, pour gérer les clés de répartition, pour gérer un peu cette opération globale, puisqu'on ne va pas demander à une personne qui habite dans son appartement de s'intéresser trop précisément à comment est-ce qu'elle consomme et tout ça au quotidien. Et de la même manière, peut-être l'entreprise qui se trouve être le producteur, parce que c'est elle qui a les panneaux sur son toit, de la même manière, peut-être qu'elle n'est pas aussi armée que ça pour gérer ces clés de répartition et autres. Donc on a la réglementation a estimé qu'il fallait une personne morale organisatrice au milieu pour gérer aussi l'interface avec le gestionnaire de réseau qui a quand même un petit peu à voir dans l'histoire. Et donc cette autoconsommation collective étendue, ce qui va être un peu le plus gros des opérations que l'on voit et que l'on va voir, puisque c'est elle qui a le plus de sens aujourd'hui, là aussi il y a évidemment des contraintes assez serrées, on l'a dit, c'est dans un périmètre très défini. Il faut un critère de proximité géographique. Aujourd'hui, dépend donc de la catégorie de la collectivité dans laquelle se trouve l'opération. Donc la distance géographique aujourd'hui, elle est de 2 km, ce qui ne fait pas beaucoup. Hors dérogation, on a des dérogations de 10 km pour des communes rurales et périurbaines et 20 km pour les communes rurales, puisqu'on a quand même expliqué à l'État que ce n'était pas facile dans des petites communes un peu rurales de trouver sous 2 km suffisamment qui fasse du sens, ou la piscine, ou la mairie, ou l'école, ou l'entreprise, ou le particulier avec sa maison. Et que tout ça dans 2 km, ça nous faisait quand même perdre des opportunités. Pour autant, il est bien indiqué que c'est des dérogations. Donc il faut aller la demander. Alors elle est automatique, voilà, mais enfin c'est quand même pas très libéral. Avec les évolutions que David a mentionnées, on pourrait arriver à simplifier un petit peu ça. Et donc, ajouter à ce critère de proximité géographique, on a aussi ce critère de puissance, 3 MW. Ce n'est pas non plus très très large. Donc le 10 MW qu'on attend va faire aussi du bien pour libérer un petit peu les opérations. Et c'est de la puissance installée, donc là encore, ça limite un petit peu. L'autoconsommation collective, ça a été dit, elle peut être totale ou partielle. Donc je peux totalement consommer la production qui est faite dans l'opération ou partiellement la consommer et injecter le surplus sur le réseau ou à travers un autre type de contrat. Alors évidemment, bon, je vais commencer par un autre petit frein quand même. Et on le disait, qui est à l'origine de ces opérations d'autoconsommation collective? Et en réalité, les énergéticiens, pour donner un mot un peu global, c'est compliqué pour eux parce que l'autoconsommation collective ne peut pas constituer réglementairement, hein, c'est dans la définition, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur, son activité professionnelle ou commerciale principale. Ce qui veut dire que l'énergéticien classique ne peut pas être le producteur puisque c'est son activité principale. Donc on a ici un petit biais qui n'est pas très pratique parce que ça suppose de trouver quelqu'un pour porter le fait d'être producteur. Alors quand c'est sur des parkings, sur des toitures, c'est plus simple parce qu'on comprend que l'entreprise, bon, bah, c'est sa toiture, donc déjà qu'elle ait ses panneaux sur sa toiture, c'est plus simple. Quand on est sur des projets peut-être de photovoltaïque au sol qui sont pas immédiatement à côté de l'entreprise, et je prends l'entreprise à dessein puisque c'est pas seulement parce que nous sommes dans un webinaire du MEDEF, mais aussi parce que c'est elle qui en général a le poids financier pour investir dans la réalisation de l'outil de production. Donc c'est souvent vers elle qu'on peut aller se tourner pour lui dire ben, toi sois le producteur plutôt que la mairie, pour aussi d'autres questions de commande publique notamment, qui est un autre frein. Donc il faut régler ce problème-là. Il y avait eu des amendements dans la loi d'accélération, la loi dite APER, d'accélération des énergies renouvelables. Ça a été considéré comme un cavalier législatif par le Conseil constitutionnel. Il faut reporter encore ce point-là parce que c'est un vrai problème derrière de financement et donc d'attractivité, pas forcément pour les très grosses entreprises qui ont par ailleurs des obligations de solarisation, donc d'un côté ou de l'autre, de toute façon, elles doivent le faire, mais peut-être pour des plus petites entreprises ou quand on a de multiples entreprises qui sont intéressées au projet. Donc ça, bon, on a quand même bon espoir que ça se règle. Je vous ai fait un magnifique schéma. Oui, les avocats sont très fiers d'arriver à faire parfois des schémas, parce que c'est pas trop, en général, ce qu'on arrive à faire. Donc, c'était pour représenter finalement aussi, en quelque sorte, la complexité de cette opération, puisqu'on aimerait bien que ça soit simplifié parfois, pour aussi des questions d'attractivité. Puisque donc la logique, c'est quand même que l'autoconsommation collective doit s'adresser au territoire, à tout à chacun, à la petite entreprise, aux consommateurs privés, à la commune, et surtout à la commune rurale, hein, parce que Paris, bon, elle n'est pas très effrayée par le marché public ou par des grosses opérations ou même des corporate PPA. Donc c'est vraiment censé s'adresser aux plus petits pour aller chercher les plus petits consommateurs pour essayer de les amener vers de la décarbonation ou en tout cas vers de la stabilité aussi dans leur fourniture d'électricité. Et donc on voit bien que là le schéma il est quand même pas très simple puisqu'on a encore des liens avec le gestionnaire de réseau même si ça a été assez simplifié. On a donc des contrats quand même avec des fournisseurs pour combler le cas échéant quand il n'y a pas de production d'électricité renouvelable, mais aussi pour combler, puisque comme ça a été dit, on ne fait pas 100% en autoconsommation collective. pour essayer aussi d'avoir les profils pour qu'ils soient lissés. On a donc un schéma qui peut être un petit peu compliqué, mais il faut penser à toutes ces strates quand on monte son opération pour qu'elle fonctionne et pour qu'une fois en la mise en exploitation, ce soit assez fluide par ailleurs. Mais il faut vraiment monter son opération de manière très, très précise. J'en viens un peu aux avantages et aux inconvénients, à comment est-ce que je choisis entre un corporate PPA quand je suis en entreprise ou un mécanisme d'autoconsommation collective. Comme je le disais, en général, le corporate PPA va être plutôt utilisé quand justement l'outil de production n'est pas sur le site. On peut évidemment faire un corporate PPA qu'on dit être physique, c'est-à-dire que j'ai directement le câble, j'ai l'installation de production à 3 km. Je peux avoir mon câble qui va directement à mon entreprise. On parlait d'ADP tout à l'heure. ADP a du foncier extrêmement largement dans les zones d'aéroports. Ils font des corporate PPA aussi. Ils pourraient faire des corporate PPA physiques. Généralement, on voit quand même des corporate PPA qui ne sont pas vraiment physiques, qui passent par le réseau et qui sont indirect en quelque sorte, mais j'ai quand même une identification de l'outil de production pour ma consommation à moi, et je peux quand même dire que ma consommation, elle est couverte par le parc éolien à côté, le parc photovoltaïque à 20 km. Je peux quand même faire cette identification qui m'intéresse pour des questions, encore une fois, de RSE ou juste pour des questions de montrer que je mets ma pierre à l'édifice. Et donc, c'est le corporate PPA, parce que c'est un outil qui est quand même assez lourd, on le voit pour des outils de production un peu larges qui viennent de sortir d'un système réglementé type obligation d'achat, qui sont donc amortis, et donc pendant 3 à 5 ans, quand on se pose la question de savoir ce qu'on va faire du site, on peut faire un petit pont avec un corporate PPA. 3 à 5 ans, ce n'est pas très compliqué, on a du retour d'expérience, on a de la visibilité et on peut y aller. Le problème pour un corporate PPA d'une installation un peu plus lourde, c'est qu'il va falloir financer. Et donc, les banques vont peut-être être un peu plus... elles sont plus regardantes sur le profil du consommateur pour s'assurer que sur les 20 ans qui sont nécessaires à ce projet pour être amorti et pour avoir du sens, que ce consommateur va bien exister, va bien être là. Donc, ça va plutôt s'adresser finalement à des entreprises un petit peu plus assises, un petit peu plus grandes, qui vont pouvoir montrer un peu plus patte blanche auprès des banques, ce qui n'est pas toujours très simple, même pour des grosses entreprises. Mais c'est le vrai risque de contrepartie qui est appréhendé au niveau du corporate PPA. Du coup, l'autoconsommation collective, elle répond à ce risque-là, en disant, moi, comme j'ai plusieurs producteurs, ou un producteur, mais surtout plusieurs consommateurs, je vais mutualiser presque les risques. Et on a parlé du risque du fait que l'autoconsommation permettait d'agréger différents profils, donc celui qui va consommer plutôt le jour et peut-être la maison d'habitation qui va plutôt consommer la nuit. Ça va lisser un peu ce profil de production, donc c'est déjà intéressant pour l'outil de production lui-même. Mais c'est aussi agréger différents profils de risque, de se dire que la mairie, c'est aussi pour ça que souvent les collectivités sont intéressantes dans l'opération, c'est qu'elles vont sécuriser. La mairie, elle ne va pas partir. La piscine, elle sera là. L'école, elle sera là. Bon, à part des cas très, très particuliers, mais on peut avoir ce socle de base qui fait que l'autoconsommation collective va avoir un peu moins de risques, va présenter un peu plus de sécurité avec une entreprise qui est là aussi depuis longtemps ou plusieurs petites entreprises. Et c'est là aussi un autre gros avantage de l'autoconsommation collective, c'est que le corporate PPA, on en fait aujourd'hui avec des multi-consommateurs, mais ça n'est pas très simple parce qu'il faut une clé de répartition, parce que ça présente des complexités. En revanche, en autoconsommation collective, ça permet d'avoir plusieurs petites entreprises qui toutes seules ne pourraient pas assumer un corporate PPA, mais mis les unes avec les autres, dilue finalement ce risque de contrepartie, puisque si l'entreprise A a une difficulté à un moment donné, l'entreprise B, elle est toujours là. Donc on va un peu mutualiser ce risque de contrepartie, ce qui est aussi intéressant, avec évidemment le fait d'amener toutes ces entreprises et tous ces acteurs, que ce soit des citoyens, des mairies ou des entreprises, d'amener ces acteurs-là, ces nouveaux acteurs-là, à la production verte, à la décarbonation. En revanche, évidemment, quelques freins dont on a parlé, je les rappelle rapidement, ces règles de distance et de puissance qui augmentent du coup le risque de contrepartie aussi, puisque si je suis limité à un périmètre de 10 km et que mon citoyen déménage, bah, il va falloir que je trouve quelqu'un pour le remplacer. Alors si c'est un citoyen et qu'il y en a 90, comme dans l'exemple indiqué tout à l'heure, bah, un parmi les 90, ce n'est pas très très grave. Si j'ai une entreprise qui fait 80% de la consommation de mon opération, si elle s'en va, eh ben, il va falloir que j'en trouve une autre ou que la personne qui viendra s'installer à la place dans l'usine, eh ben, qu'elle aussi elle participe à cette opération. Donc il faut aussi réfléchir à ça et ça permet là aussi de mutualiser les différentes... les risques, si on a plusieurs petites entreprises, ça peut aussi être un avantage de ce point de vue-là. Évidemment, la création et la gestion de la PMO, ce qui est un peu lourd, il faut le prendre en compte, il faut l'assumer, il faut l'anticiper. Un autre frein important et qui devrait amener à évoluer, on l'espère, c'est cette autorisation d'achat pour revente, dite aussi autorisation de fourniture. C'est une innovation tout à fait intéressante de la loi d'accélération, qui est aussi valable pour les corporate PPA. Pour le coup, on est dans le même bateau. Dès lors qu'on vend de l'électricité à un consommateur final, du fait de la loi, on a besoin de cette autorisation de fourniture. C'est un gros sujet, parce que c'est pas juste j'obtiens une autorisation et on s'en moque, c'est qu'il y a des obligations derrière, il y a des lourdeurs évidemment pour l'obtenir, c'est ça de plus. Honnêtement, je pense que ce n'est pas fait pour l'autoconsommation collective et que ce n'était pas l'objectif, mais comme d'habitude, une fois qu'on a mis une couche, pour l'enlever, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc, il y a des discussions pour l'enlever, mais aujourd'hui, en opération d'autoconsommation collective, ça s'applique quand même. Donc, il faut le savoir avec cette possibilité de mandater un tiers pour être porteur de cette autorisation à la place, par exemple, de la PMO, en tout cas du producteur. Donc, ça, c'est un gros frein. Évidemment, Enerplan et les autres syndicats de la filière travaillent activement pour le faire sauter parce que c'est un vrai, vrai sujet qui n'a aucun intérêt à quelque titre que ce soit. Donc voilà, là, c'est un faux sujet. Des perspectives d'évolution rapidement, on l'a dit, le gaz aussi peut se mettre à l'autoconsommation collective. C'est une innovation de la loi APER, donc c'est assez récent. C'est là aussi quelque chose d'intéressant, a fortiori, alors qu'aujourd'hui, les schémas réglementaires de soutien des projets de biogaz n'est pas très simple. Donc, ça peut être vraiment une vraie alternative à aller vers de l'autoconsommation collective en biogaz. C'est très intéressant. Là aussi, hein, il y a des questions de géographie, de distance. Hein, voilà, là aussi, c'est les mêmes critères. Alors, ce n'est pas un critère puissant, c'est un critère de production, mais c'est aussi un critère de distance géographique identique à celui de l'électricité. Donc, c'est un peu dommage, mais il faut aussi batailler pour que ce soit levé.
Merci beaucoup, les participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous en avons déjà une.
Par définition, l'opération d'autoconsommation collective se fait sur le réseau public et les électrons qui sont autoconsommés collectivement transitent par le réseau public. Donc, il y a du TURP à acquitter et la TICFE, je ne sais jamais quel est son nom actuel, ça change un peu à chaque loi de finances, de l'accise sur l'énergie à acquitter, comme vous l'avez sur vos factures classiques. En revanche, dans le cadre d'opérations qui seraient menées par le biais des appels d'offres que le ministère fait instruire par la Commission de régulation de l'énergie, il y a un ajout, entre guillemets, au tarif demandé, qui permet la prise en charge de ces taxes, et que ce soit le TURP ou l'accise, dans le modèle économique et finalement sur la durée du contrat pour lequel on est lauréat. Donc il y a une possibilité de prise en charge dès lors qu'on est lauréat de l'appel d'offres. Un petit commentaire qui n'a rien à voir avec le TURP, hein, mais je réagis à ce que disait Hélène à l'instant. Je ne peux pas citer de nom parce que c'est dans mon rôle pas opportun, mais simplement pour dire qu'on a vu des complexités des freins, hein, on en a encore sous les yeux dans la slide là, mais l'innovation des entreprises du solaire est là aussi pour pallier ces freins, et il y a aujourd'hui des entreprises qui vont proposer d'accompagner de manière quasi clé en main les opérations pour les monter, en allant y compris chercher les autres consommateurs, voilà, en partant de l'idée ou de la volonté d'un futur autoconsommateur qui a de l'espace et pour aller rechercher d'autres consommateurs et faire le montage de cette opération, ou même d'autres qui sont aussi adhérents chez Enerplan qui se lancent dans une forme de blabla car, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais une forme de blablacar de l'autoconsommation collective qui a vocation à recenser les opérations à ce que chacun puisse aller chercher est-ce que mon entreprise, ma maison se trouve dans le périmètre d'une opération d'autoconsommation collective et qui je peux contacter pour y entrer, ou mettre la mienne que je suis en train de monter pour aller trouver d'autres consommateurs ou producteurs.
Peut-être concernant le TURP, il va évoluer donc au 1er août 2025, on passera du TURP 6 au TURP 7. Et dans la nouvelle version du TURP, il y a des dispositions qui vont faciliter le développement des énergies renouvelables, et notamment du photovoltaïque, avec des frais associés, des coûts associés qui vont pouvoir changer un peu pour faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Et je pense notamment à une évolution qui concerne les heures pleines et les heures creuses, qui sont un moyen utilisé aujourd'hui par les particuliers pour bénéficier d'une énergie moins chère dans la journée, pour pouvoir prendre en compte l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et notamment du photovoltaïque. Ces heures creuses vont être amenées à évoluer et refléter davantage une saisonnalité. Et donc, voilà, ça fait partie des mécanismes qui, réglementation après réglementation, vont faciliter le développement des énergies renouvelables. Et c'est des mécanismes supplémentaires qui pourront être mobilisés pour optimiser, une fois encore, les modèles d'autoconsommation collective.
Peut-être une question sur les PPA. Alors, PPA et CPPA, c'est presque la même chose. PPA, c'est un contrat de vente d'électricité. On met le C pour le corporate, c'est-à-dire qu'on vend à un consommateur industriel, une entreprise. En comparaison du UPPA avec le U qui est plutôt pour l'utility quand on vend à un agrégateur et qu'on fait de la vente finalement à un énergéticien qui va lui-même revendre à un consommateur. Donc, mais le principe est assez similaire, c'est plus une question d'allocation. Il n'y a aucun critère de distance géographique dans un corporate PPA. Totalement neutre, il y a un agrégateur qui va être au milieu du consommateur et du producteur. On va finalement un petit peu, si je caricature pour... comprendre, c'est que le producteur va vendre à l'agrégateur qui, lui, va se charger de trouver l'électron à l'autre bout de la chaîne qui va être destiné au consommateur. Donc, il y a un contrat derrière qui vient dire que le consommateur a bien payé le producteur pour son électron, mais il ne consomme pas le sien physiquement, comme l'électricité ne... Alors, pour le biogaz, en revanche, on peut en discuter, effectivement, puisque pour le biogaz, on peut avoir du gaz porté. C'est des schémas qu'on voit sortir aujourd'hui sur les BPA, qui sont soit avec du gaz injecté, donc sur le réseau, sur le modèle de l'électrique, mais il y a aussi du gaz porté. Mais en corporate PPA, en PPA électrique, donc classique, il n'y a aucun critère de distance. Et le seul intérêt qu'il y ait, c'est pour identifier pour l'entreprise, pour pouvoir dire, bah, regardez, le parc éolien devant lequel vous passez tous les jours, le parc photovoltaïque devant lequel vous passez tous les jours, et accessoirement peut-être que vous ne trouvez pas ça très beau, mais regardez l'intérêt que vous avez, puisque c'est bien ce parc éolien avec lequel on a contracté. Donc c'est plus un argument d'acceptabilité, de marketing, de communication, mais juridiquement et techniquement, ça n'a aucune espèce d'importance.
Alors, le blablacar du corporate PPA, non, à mon sens, il n'existe pas. Et comme le rappelait Hélène aujourd'hui, les corporate PPA sont du fait de la complexité des contrats et du risque pour ceux qui vont financer les actifs. Un actif solaire, c'est essentiellement un actif capitalistique. Il y a un gros investissement au départ et il y a peu d'OPEX après et beaucoup de CAPEX au départ. Donc forcément, qui dit CAPEX important dit on va chercher... des financeurs pour ces actifs-là. Hein. Tout n'est pas fait sur fonds propres et donc tout le monde le sait hein, dans le monde de l'entreprise, hormis les assureurs, il y a peu de gens qui ont une telle aversion au risque que les financeurs. Donc on a besoin de sécuriser tout ça et aujourd'hui il n'y a pas de blablacar qui existe pour les PPA à ma connaissance.
Alors juste pour compléter là-dessus, parce que c'est utile de juste le signaler, les informations sont disponibles. On a aujourd'hui, pour couvrir ce risque des corporate PPA, on a aujourd'hui une garantie BPI. Donc la BPI a été chargée par l'État de fournir une garantie, justement, alors pour certains types de corporate PPA vers des industriels, et avec certaines puissances, etc., mais qui s'élargit, là, il y a je sais plus, quelques semaines, ça a été élargi justement parce que ça a été un grand succès. Alors, tout est relatif, un grand succès, ce n'est pas 5 millions de contrats qui ont été conclus, mais ça marche bien parce que ça libère justement ce risque-là, puisque la BPI va venir en cas de défaut du consommateur, donc de l'entreprise qui est le consommateur, elle vient couvrir ce risque-là pendant une période assez longue, qui permet au producteur du coup d'amoindrir ce risque de contrepartie et de pouvoir financer son projet. Donc ça, c'est un élément très très important pour les entreprises qui voudraient se lancer dans du corporate PPA. Il faut vraiment, alors ça a un coût, hein, bien sûr, hein, la PPI, elle fait pas ça gratuitement, mais c'est, enfin, a priori, on voit que ça marche. Enfin, il y a quand même des contrats qui sont.
Peut-être juste pour terminer sur le sujet, finalement, comme il n'y a justement pas de critères géographiques, ce n'est pas de la consommation sur site, ça fonctionne un peu et c'est assorti des garanties d'origine renouvelable de l'électricité qui sont générées au moment où on injecte, le producteur injecte des kilowattheures sur le réseau. Donc ça a un intérêt double, le PPM et l'autoconsommation collective peut générer les mêmes intérêts. Ça a un intérêt double, ça a un intérêt de connaître le prix à l'avance, hein, c'est de l'achat à terme. On sait à quel prix on achètera les kilowattheures et par ailleurs de pouvoir intégrer dans son RSE les garanties d'origine qui vont avec les kilowattheures que j'aurai ou autoconsommé collectivement ou acheté dans le cadre d'un PPA, un peu comme si j'avais acheté de l'électricité verte directement à mon fournisseur. Je peux peut-être déjà dire quelque chose qui peut paraître de l'évidence, mais il y a des obligations qui sont des obligations connexes. Les entreprises vont être tenues et de mettre à disposition des infrastructures de recharge de véhicules électriques et de solariser leur parking extérieur. Donc voilà, il y a des temporalités qui peuvent être différentes, mais il y a des obligations qui vont s'appliquer au même espace et à la même entreprise. Donc la logique veut, ou en tout cas c'est ce qu'on a travaillé avec notamment l'AVER, hein, l'Association du véhicule électrique et de la recharge, la logique veut qu'on fasse les deux en même temps, d'une part parce qu'on peut alimenter les infrastructures de recharge avec les actifs solaires qu'on aura mis sur le site, et puis un truc tout bête, hein, mais si je vais faire des travaux sur un parking, passer des lignes électriques souterraines, enterrer sur mon parking pour mettre mes IRVE en premier par exemple, et que finalement je m'aperçois 6 mois après qu'il va falloir que je fasse de nouveau des travaux pour aller mettre des ombrières photovoltaïques, il y a une chance sur deux, pour que si ce n'est pas 8 sur 10 plutôt, pour que le tracé de mes lignes électriques souterraines pose problème pour la pose des ombrières, et que finalement je me retrouve à faire quasiment 2 fois les travaux. Autant tout penser d'emblée, ça coûtera moins cher à tout le monde, et on peut avoir effectivement cette synergie qui finalement est assez logique. De dire je produis et j'ai un outil de consommation au même endroit. Après, sur les évolutions à venir, le véhicule to home ou building et to grid, c'est encore une étape supérieure, mais en tout cas, au moins, ne serait-ce que pour des raisons de logique de construction, il y a tout intérêt à faire en même temps.
Oui, effectivement, il y a cette thématique du pilotage qui va se développer et qui sera intéressante, au sens où, comme on le disait, le premier intérêt, c'est d'autoconsommer un maximum dans son projet d'autoconsommation collective, et donc d'avoir des capacités de stockage avec les véhicules électriques, bah, c'est intéressant. On va pouvoir recharger ces véhicules électriques la journée quand il y aura l'ensoleillement, potentiellement l'utiliser pour rouler, évidemment, mais aussi pour pouvoir restituer cette électricité auprès de l'entreprise ou des autoconsommateurs plus tard dans la journée, quand il n'y a plus de soleil, mais qu'il y a cette électricité-là qui est disponible dans les batteries, tout en mettant en place des règles pour s'assurer que le lendemain matin, les agents, par exemple, ou les salariés pourront bien utiliser les voitures avec un minimum de fonctionnement des batteries. Et donc ça va être amené à se développer en même temps que ce type de projet et que l'autoconsommation collective. Et ça sera des leviers supplémentaires pour augmenter le taux d'autoconsommation et donc augmenter la rentabilité des projets.
Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé vos expertises. On espère que ces retours vous auront apporté des éléments concrets et un éclairage donc expert. N'hésitez pas à revenir vers nous suite à ce webinaire, à ce cycle que l'on clôt aujourd'hui sur l'autoconsommation individuelle et collective. Vous aurez les supports de présentation, les contacts. On est à votre disposition. Avec l'Académie MEDEF, on organise d'autres sessions d'information sur comment moins consommer, sobriété et efficacité énergétique, et comment mieux consommer son énergie sur le site de son entreprise. Et bonne journée à tous et toutes.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement? Rendez-vous sur le site lacademiemedef.fr.